Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour de piste. Le tour de piste est une émission hebdomadaire qui survole les enjeux du 21e siècle. Sans mâcher mes mots, je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour de piste. Parce qu'être renseigné est le premier pas vers la liberté. Soyez des nôtres, le tour de piste débute à l'instant.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce tour de piste du mardi 1er décembre 2015. Je vous invite à un voyage d'une durée de 30 minutes nous permettant de survoler l'actualité des derniers jours. Voici donc notre plan de vol pour aujourd'hui. Je parlerai d'éducation sexuelle en milieu scolaire, de la Gambie qui interdit l'excision, de violence conjugale, de la fusillade dans une clinique à Colorado Springs, d'une manifestation contre le terrorisme et le racisme en rafale. Il sera question de Christian Estrosi qui défend les crèches de Noël municipales, de la guerre linguistique du Québec, de l'insoutenable poids des secrets de famille et de vivre 120 ans grâce à un nouveau médicament. Mesdames et messieurs, attachez bien votre ceinture, votre tour de piste débute à l'instant. Avant de procéder à nos manœuvres de décollage, je vous invite à visiter ma page web, le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Vous y trouverez la majorité de mes interventions publiques écrites ou parlées. Je vous invite également à m'écrire via le courriel à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Veuillez noter que blogueur prend un seul G. Maintenant, j'aimerais discuter ou démarrer ce tour de piste en parlant d'éducation sexuelle dans les écoles. Et oui, le Journal de Montréal a publié aujourd'hui un article qui s'intitule comme suit. Éducation sexuelle, deux points, les élèves ne seront pas évalués. Eh bien, c'est vraiment dommage parce que le prétexte qu'on donne, on dit que les élèves ne seront pas évalués vu la complexité de la matière. Écoutez, si la matière est si complexe que ça, ça veut dire qu'elle n'est pas adaptée aux élèves. Si les élèves n'auront pas nécessairement les bonnes réponses lorsqu'on va les évaluer, bien ça veut dire que le programme n'est pas adapté à eux. L'évaluation, là, c'est la partie la plus importante de la démarche pédagogique. Parce que c'est là qu'on évalue, c'est là qu'on valide si justement les objectifs ont bien été atteints. Est-ce que, justement, si c'est au niveau des compétences, si c'est au niveau des connaissances, au niveau des savoirs, au niveau du savoir-faire, au niveau du savoir-être, si c'est une réflexion, etc. Et l'évaluation va déterminer le niveau d'acquisition de l'apprenant et la performance de l'enseignant. Alors moi, j'ai été enseignant pendant plusieurs années. J'ai été enseignant au primaire, au secondaire, à l'université, comme titulaire de classe, j'ai été enseignant comme spécialiste en milieu rural, milieu urbain, petite école, polyvalente, école privée, école publique. Je pense que j'ai un bon éventail de l'éducation, du système éducatif au Québec. Maintenant, ce qui arrive, c'est que en tant qu'enseignant, lorsque j'évalue, je vois la performance de l'élève et ma performance personnelle, parce que c'est un mélange des deux. Il y a une part de l'élève d'assimiler la matière, de faire des liens. Et pour ça, on doit faire des exercices, on doit s'assurer que tout rentre bien. Mais après ça, lorsqu'on évalue, lorsqu'on passe un examen, un test, eh bien, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui a été acquis. Mais là, on fait un projet pilote dans différentes écoles. C'est pas un projet qui a été établi à toutes les écoles du Québec. C'est un projet pilote pour l'essayer, pour le tester. Mais c'est le meilleur temps pour l'évaluer. Parce que s'il y a des ratés, on va pouvoir les corriger. Mais sur quelles données on va se baser pour dire qu'il y a eu, c'est un succès ou il y a eu des ratés? S'il n'y a pas d'évaluation, là, c'est très difficile à dire, c'est très difficile à quantifier. Maintenant, les questions qu'on doit se poser. C'est des questions que j'ai posées, moi, sur la plateforme du Journal de Montréal, dans la section des réactions des lecteurs. Si vous allez sur le Journal de Montréal, vous allez chercher cet article-là. Et en passant, tous les articles, presque tous les articles que je cite, sont accessibles sur ericlantier.net. Si vous arrivez justement sur le tour de piste du 1er décembre, vous allez voir le titre de la chronique ou le titre du sujet, éducation sexuelle, 2 points, les élèves ne seront pas évalués. Vous cliquez dessus, le titre devrait être en vert et vous allez avoir accès à l'article. Donc, gênez-vous pas, c'est là pour vous. Alors, les questions que j'ai posées dans la section du lecteur. Est-ce que le ministre a peur des résultats? Est-ce qu'ils veulent cacher aux parents le contenu du cours? Parce que, imaginez, les enfants arrivent de l'école et disent « Maman, maman, j'ai eu 32% dans mon examen d'éducation à la sexualité. » Ben montre-moi ça. Puis là, vous allez voir les questions, vous allez discuter avec lui. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une transparence? Ils ne veulent pas que les parents se plaignent du contenu. Si le contenu est clair et les objectifs sont clairs, l'évaluation devrait être facile à opérer, ça devrait être clair. Si c'est trop complexe à évaluer, là, c'est que le cours n'est pas adapté aux élèves et le ministère de l'Éducation n'est pas prêt. C'est de l'improvisation pure et dure. Puis moi, la question que j'aimerais poser à M. Blais, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels sont les vrais motifs du ministère de l'Éducation dans ce dossier? Écoute, je comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'une matière ne soit pas évaluée. Je veux dire, si on ne l'évalue pas, ben c'est qu'elle n'a pas sa place. On évalue les élèves pour justement s'assurer qu'ils ont atteint les objectifs, qu'ils ont développé les compétences, qu'ils ont acquis les connaissances. Alors, c'est un dossier à suivre, mais moi, je suis de plus en plus déçu du ministre Blais. J'étais déçu du ministre Bolduc. Bon, mais le ministre Blais, là, il ne m'a pas convaincu qu'il est un successeur performant. Laissez-moi vous le dire. Mais que voulez-vous? C'est à suivre. Et moi, je vous invite à communiquer avec votre député en disant « Non, nous, on veut une évaluation. » Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce cours-là, qui est imposé aux élèves, parce que moi, je ne suis pas d'accord. Si j'avais des enfants encore au primaire ou au secondaire, je m'opposerais à ce programme-là, ça c'est clair. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'État devrait mettre des ressources pour aider les parents à communiquer justement ces informations-là, à trouver les moyens pour rétablir le lien relationnel et de confiance pour pouvoir aborder le sujet en toute quiétude. C'est là que l'argent devrait être investi. Mais que voulez-vous? Ça a l'air que ça n'a pas sonné de cloche au ministère de l'Éducation, ce raisonnement-là. Mais on touche un autre aspect qui est relié à la sexualité. La Gambie interdit l'excision. On voit ça dans le madame.lefigaro.fr/société. Donc, madame.lefigaro, dans un mot, .fr/société. Avant qu'on rentre dans l'article, écoutez bien ça. En Afrique, c'est ce que Wikipédia nous informe, en Afrique, on recense 28 pays où les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées. 28 pays, mesdames et messieurs. Mais ce qui me fait tomber en bas de ma chaise, Bidding Banang, là, je ne devrais pas faire de farce parce que c'est tellement sérieux et c'est tellement horrible ça, d'enlever le clitoris à une fille. C'est une source de plaisir sexuel. Moi, je trouve ça immoral, je trouve ça scandaleux. Je ne sais pas pourquoi ce serait seulement l'homme qui aurait de la jouissance et non la femme. Si Dieu a donné un clitoris à une femme pour qu'elle ait du plaisir, pourquoi on ne lui laisse pas? C'est s'élever au-dessus de Dieu. Que ce soit au nom de pratiques religieuses ou culturelles, je m'y oppose. Wikipédia nous apprend qu'en France, environ 3000 femmes ont bénéficié de cette opération sous anesthésie générale. 4 autres chirurgiens formés par Pierre Foldès pratiquent cette opération en Égypte et au Sénégal. Cette technique est inscrite à la nomenclature des actes médicaux remboursés de la Sécurité sociale française depuis octobre 2004. Hello, en France, et c'est remboursé. Je ne comprends pas. Pourtant, la France est supposée être un pays civilisé. Qu'est-ce qui se passe avec ça, mes cousins français? Je trouve ça inacceptable. Mais savez-vous quoi? Si vous allez sur le site planetoscope.com, chaque jour, ce sont 6000 femmes. Chaque jour, mesdames et messieurs, ce sont 6000 femmes qui sont excisées dans le monde. Les excisions touchent 2,2 millions de femmes par an. Écoutez, ça ressemble à la population de l'île de Montréal à chaque année. Imaginez-vous. Non, mais c'est quelque chose, là. Mais la bonne nouvelle dans ça, savez-vous, c'est quoi? C'est que le président gambien, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Yahya Jammeh. Alors, le président gambien, Yahya Jammeh, eh bien, a décrété l'interdiction de l'excision, soulignant que cette pratique très répandue dans le pays n'était pas dictée par l'islam et devrait par conséquent être abolie. C'est ce que nous révèle l'article de madame.lefigaro.fr/société. Et donc, il a décrété l'interdiction de l'excision. Cette décision vise la protection des fillettes, a assuré M. Bojang. Le chef de l'État l'aurait justifié en soulignant l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. Et écoutez bien ce qu'il dit ensuite. En cas de non-respect de cette interdiction, le président Jammeh a prévenu les parents et les autorités locales qu'ils subiraient des sanctions. Ça, c'est bon. Et selon les commentateurs, les peines devraient être alignées sur celles prévues par la loi en cas de coups et blessures volontaires. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'on exerce encore des actes de barbarie à travers le monde. Moi, ça me dépasse. Mais c'est pour ça que je vais utiliser cette plateforme-là pour dénoncer. Et c'est important qu'on puisse s'exprimer et de dénoncer que c'est quelque chose d'inhumain de faire ça. C'est de la mutilation. C'est une forme de violence. Et c'est pourquoi c'est important de parler de violence conjugale. On le voit de plus en plus dans les médias, hein? C'est incroyable le nombre de victimes de violences conjugales. On voit que, par exemple, la violence sexuelle, on voyait à l'émission Le Tour d'horizon qu'il y a plus de 4000 femmes au Québec par année qui subissent de la violence. En France, 223 000 femmes ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint en 2014. Il faut dire que leur population est beaucoup plus grande que la nôtre, mais c'est quand même incroyable. Cette emprise totale plonge en général la victime dans un processus d'anesthésie, de déni puissant. Alors, c'est ce que nous révèle madame.lefigaro.fr. Et c'est intéressant parce qu'il y a des questions et des réponses face à ça. Parce que, justement, on veut savoir comment réagir si, par exemple, vous avez une amie qui est victime de violences conjugales par son conjoint ou son ex-conjoint. Alors, comment on doit procéder? Comment? Parce qu'on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, on veut aider. Et ce qui arrive, c'est que s'il y a des maladresses, la victime va se refermer parce que ce que l'article nous révèle, c'est que la victime plonge dans un état, je ne dirais pas semi-comateux, là, mais c'est un état de déni, un état de déni, pour justement, parce que ça fait tellement mal. C'est un état d'anesthésie et de déni puissant. Et donc, on pose la question, à partir de quand faut-il s'inquiéter pour son ami? Et à partir du moment où que la personne s'isole, parce que le conjoint violent, l'homme violent, va monter sa femme contre ses amis pour l'isoler justement, pour pas qu'elle puisse en parler ou pour pas qu'il puisse se faire prendre à son piège. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des symptômes psychotraumatiques qui s'enclenchent dans ces personnes-là. Et l'article nous dit qu'elles vont vivre un peu comme des fantômes. Ils entrent dans un mécanisme de survie qui les anesthésie émotionnellement pour supporter l'insupportable. Et le problème, c'est que malheureusement, les personnes qui sont victimes n'en parlent pas. C'est très peu de gens qui en parlent. Soit parce que leur mari leur a répété que c'était de leur faute et qu'elles se sentent coupables et honteuses, soit parce qu'elles sont dans la dissociation. Elles ne ressentent pas d'émotion face à ce qui s'est passé. C'est incroyable. La douleur est tellement forte qu'ils ne ressentent plus d'émotion. Et le problème, c'est que chaque femme battue pense qu'elle est la seule à subir ces violences-là. Mais Il y a un point qui est intéressant qui est révélé dans l'article. C'est que lorsque, si vous arrivez à toucher le vif du sujet avec la personne qui est la victime, demandez-lui, s'il m'arrivait la même chose, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu trouverais ça normal? Il faut lui dire que, parce que si elle vous dit, oui, mais je le mérite, j'ai pas été fine, puis tout ça, oui, mais c'est quelque chose qui est grave et c'est condamné par la justice. Et donc, il faut démontrer qu'il n'y a rien qui justifie la violence. Il n'y a rien qui justifie la violence. Il faut réallumer, si on veut, cette petite lumière rouge d'alarme en elle pour dire « Wow, oui, je vis quelque chose de douloureux. » Essayer de la déculpabiliser parce qu'elle est victime. Mais de garder suffisamment de distance pour pas que justement, le mari devient encore plus contrôlant. Et c'est vraiment important. Si vous connaissez quelqu'un qui est victime de violences conjugales comme ça, c'est important de vous d'aller chercher conseil. Peut-être d'aller, si vous habitez dans la région du Québec, au CLSC, demander conseil, demander de l'aide, parce qu'eux autres, ils envoient quotidiennement des cas comme ça. Et ils vont vous aider. Mais je vous invite à lire l'article. C'est important. Et moi, ça me touche. Je trouve ça tellement déplorable de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont violents comme ça. Et même si la personne était violente parce qu'elle a été victime étant plus jeune, mais ce n'est pas à sa conjointe, à son épouse, à en subir les conséquences. Il faut que la personne qui est violente aille chercher de l'aide et également la personne victime. Et des actes de violence, on en voit partout à travers le monde. On en a vu la semaine dernière à Colorado Springs. Et oui, il y a une fusillade dans une clinique d'avortement, dont 3 morts, 9 blessés. Et parmi les 3 morts, il y a un policier qui est décédé. Alors, un centre de planning familial, c'est ce que nous révèle Huffington Post. Un centre de planning familial dans le Colorado, dans l'ouest des États-Unis, a été le théâtre d'une sanglante fusillade vendredi qui a duré plusieurs heures et fait 3 morts, dont un policier ainsi que 9 blessés. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, des gens qui sont impliqués, qui sont des membres du personnel ou des dirigeants de cliniques d'avortement au Québec, qui se posent des questions puis qui veulent avoir des injonctions. Donc, des arrêts de la loi pour assurer un périmètre de protection. Écoutez, dans ce que j'ai répertorié de plus récent sur la toile, eh bien, c'est dans la presse plus, on nous révélait au mois d'août c'était déjà la 4e fois que 3 cliniques montréalaises avaient réussi à obtenir une injonction afin d'empêcher les manifestants anti-avortement de brandir des pancartes à leur porte. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand on questionne les manifestants anti-avortement qui sont pro-vie, ils assurent et des témoins vont dire qu'ils ne causent pas de grabuge. Ils ne sont pas irrespectueux, ils sont présents. Et même, il y a des conseillers qui sont là pour offrir de l'aide, de l'écoute, du soutien et pour encourager les femmes à ne pas se faire avorter. Mais ce qui arrive, le problème... Savez-vous pourquoi les cliniques d'avortement demandent des injonctions pour qu'il y ait un périmètre de sécurité? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont peur qu'il y ait des gens violents. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des gens violents qui ont tenté de pénétrer les lieux ou tenté de commettre des méfaits. Mais quand on pense au groupe comme Campagne Québec Vie, ce ne sont pas des gens violents. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des femmes qui entrent dans la clinique après avoir vu des pancartes et après avoir discuté avec des membres de Campagne Québec Vie, et ils sont bouleversés, stressés, dérangés, contrariés, et certaines sont fâchées et même choquées. C'est ce que nous révèle justement cet article de la presse. Et donc, ça fait en sorte que les membres du personnel n'opèrent pas leur avortement avec autant d'aisance. Ils doivent prendre soin de la personne, ils doivent prendre soin du moral de la personne. Et donc, et même ça peut amener des complications parce qu'il y a un niveau de stress qui a monté juste avant d'arriver, plutôt qu'arriver en toute quiétude pour se faire avorter. Il y a un élément de stress. Et donc, Mais la Cour, elle, puisqu'elle reconnaît le droit à l'avortement, eh bien, ce qui arrive, c'est que on veut justement dire, ben, puisqu'on reconnaît le droit à l'avortement, ces femmes-là ont le droit d'y aller en toute quiétude d'esprit et donc ils ne doivent pas être dérangées. Et là, ça ramène encore une fois tout le débat sur la liberté d'expression. Est-ce que les gens de Campagne Québec Vie ou les groupes pro-vie ont le droit d'exprimer leur idée, exprimer leur inconfort, exprimer leur vision du monde, exprimer comment ils voient la vie? Est-ce qu'ils ont le droit? Et c'est là que c'est important de ne pas toucher à la liberté d'expression. Qu'il y ait de la violence, ça sera toujours inacceptable. Toujours. Si c'est fait respectueusement, et si la personne s'arrête pour discuter avec ces gens-là, pourquoi on leur interdirait? Maintenant, au Québec, il y a 48 cliniques d'avortement qui pratiquent entre 25 et 30 000 avortements chaque année. 8 à 10 000 de ces avortements-là sont effectués par 3 cliniques montréalaises. C'est le tiers des avortements qui se pratiquent par ces cliniques montréalaises-là. Donc, imaginez, c'est quand même beaucoup, hein? Juste dans la petite région de Montréal. Alors, tout le reste, c'est 2/3 qui sont répandus à travers le Québec. J'en ai parlé d'avortement dans le tour d'horizon du 27 novembre. Alors, si vous allez sur ericlantier.net, vous pourrez élaborer le sujet, voir d'autres angles, d'autres éléments de contenu. Et donc, il n'y a pas simplement des manifestations contre les avortements qui se passent à travers le monde, mais on a aussi des manifestations contre le terrorisme et le racisme. On l'a vu, la plus récente manifestation à cet égard, c'est en Pologne. Alors, quelques 300 personnes ont manifesté dimanche à Poznań West, à l'appel de la communauté musulmane de cette ville, pour protester contre le terrorisme et le racisme. C'est ce que Le Devoir nous révélait, le journal Le Devoir. Et je poursuis avec ce que nous dit Le Devoir. Il s'agit d'une première manifestation de ce type organisée par la petite communauté musulmane dans ce pays de 38 millions d'habitants, dont 90% se déclarent catholiques. Et donc, selon différentes estimations, entre 15 et 25 000 musulmans vivent en Pologne. Et voici ce qu'ils disent. « Nous condamnons toute forme de terrorisme et nous exprimons notre solidarité avec le peuple français et toutes les victimes des attaques terroristes dans le monde », a déclaré l'imam de Poznań, Youssef Chadid, organisateur de la manifestation. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de voir qu'il y a des musulmans qui se lèvent contre le terrorisme et contre le racisme. Alors, je vous invite également à écouter ma chronique du Tour d'horizon d'aujourd'hui, du 1er décembre. Je parle d'intégrisme et ça vaut la peine de donner suite à cela. En rafale, il nous reste quelques minutes, Christian Estrosi défend les crèches de Noël municipales. J'ai parlé de ce sujet-là la semaine dernière, justement, mercredi dernier, encore une fois dans le cadre du Tour d'horizon. Vous savez, le Tour d'horizon, c'est une autre émission que j'anime. Au lieu d'être une hebdomadaire, comme le tour de piste que vous écoutez actuellement, le tour d'horizon, c'est un tour d'horizon, ça le dit, d'une durée de 15 minutes, mais chaque jour, du lundi au vendredi. C'est diffusé au 92,7 FM à 8h05 et à 20h05. Et c'est également accessible sur ericlantier.net. Donc, mercredi dernier, j'en ai parlé de ça, que Christian Estrosi défend les crèches de Noël municipales. Et j'ai également écrit un article qui s'intitule « Les crèches de Noël, l'expression culturelle transcende la préférence personnelle ». Alors, il y a un débat, comme au Québec, il y a eu un débat là-dessus. C'est un débat qui revient régulièrement. Et en France, c'est un débat aussi qui revient régulièrement. Ça vaut la peine de lire cet article et d'écouter cette capsule. Vous avez également un article qui a été publié sur le Figaro.fr qui traite de ce sujet. Alors, l'horrible guerre linguistique du Québec, ça c'est... c'est par Richard Martineau. Il revient sur le fait que, vous savez, on va accueillir des réfugiés syriens dans les prochaines semaines. Et il y a tout eu un débat, ben, puisque ça relève du ministère fédéral, l'immigration, tout ça. Est-ce que les immigrants auraient le droit, si c'est plus facile pour eux, ben, de vivre en anglais plutôt que d'apprendre le français? Alors, et là, lui, il trouve ça inconcevable parce que ça nous ramène toujours le débat linguistique, cette dualité qu'on vit ici au Canada et qu'on vit aussi également au Québec, parce qu'il y a quand même une représentation significative d'anglophones. Mais le problème, c'est que moi, je me pose une question. Je trouve ça important d'apprendre l'anglais. C'est nécessaire. Je crois que tous les Québécois doivent apprendre l'anglais. C'est la langue internationale. C'est, vous allez dans un pays hispanophone, vous parlez anglais, vous allez vous faire comprendre, ils vont vous comprendre. C'est comme la langue, j'appellerais ça, entre guillemets, la langue de jonction. C'est important. Tout ce qui se dit, tout ce qui se lit, je veux dire, vous allez juste au cinéma, je veux dire, le nombre de films qu'on voit à l'écran qui sont américains, c'est incroyable. La musique, tout ça. Mais maintenant, si on accueille des gens ici, au Québec, on a des lois, par exemple, qui protègent notre langue. On a des lois au niveau de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'eux viennent d'arriver, on serait plus tolérants. Non, c'est important qu'ils puissent apprendre le français. S'ils étaient arrivés en Chine, est-ce qu'ils auraient appris l'anglais? En arrivant en Allemagne, est-ce qu'ils apprendraient l'anglais? Ou l'allemand. Alors, c'est important. S'ils arrivent en Russie, est-ce qu'ils vont apprendre l'anglais ou le russe? Alors, c'est important de simplement dire, bien, on est un... C'est comme si... Moi, ce qui m'agace, c'est pas que je compte l'anglais, c'est que on est francophone. Pourquoi on serait gêné d'être francophone? Puis pourquoi on se sentirait mal de dire, bien, vous venez habiter chez nous, on vous accueille, vous allez avoir des privilèges, vous sortez de votre misère. En tout cas, vous ne serez peut-être pas nécessairement dans le confort comme nous on l'est, mais vous allez être dans un meilleur confort, dans un meilleur environnement que vous l'étiez. Et donc, on vous demande une chose, c'est d'apprendre le français. Pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, je vous invite à lire l'article de Richard Martineau qui est paru aujourd'hui, le 1er décembre, dans le Journal de Montréal. L'insoutenable poids des secrets de famille. Hein? Il y a des secrets de famille qui, des fois, quand on l'apprend, c'est un choc. Hein? Moi, des fois, je pense à mes petits-enfants, quand ils vont grandir. Ils vont demander à mes enfants, leurs parents. Mais la femme de papa, c'est pas ta maman. Hein? Comment ça, elle vit plus? De quoi elle est morte? Et ça, ça va être un choc quand ils vont apprendre qu'elle s'est enlevée la vie. Et donc, c'est un article qui est intéressant, qui met des mises en garde, puis qui, en même temps, qui donne des pistes. Comment, justement, on transige avec les secrets de famille? Et ça, encore une fois, c'est sous la plateforme de madame.lefigaro.fr qu'on peut apprendre ça. Voici ce que ça nous dit. « La vérité est souvent rassurante, car elle donne du sens à son histoire et lève le voile sur un mystère qui, fantasmé année après année, se révèle encore plus destructeur », explique Raphaël Nakenkerian, thérapeute narrative et médiatrice spécialisée dans la gestion de conflits. Alors, je vous invite à lire cet article-là. Et un dernier article que j'aimerais souligner au passage. Vivre 120 ans. On va terminer avec une note positive. Vive 120 ans grâce à ce médicament. Et oui, Journal de Montréal a publié hier, le 30 novembre, un article qui dit ceci. Des chercheurs croient que tout le monde pourrait vivre jusqu'à 120 ans grâce à un médicament peu coûteux appelé metformine. Je ne sais pas s'il est formidable, mais c'est appelé metformine, qui est déjà commercialement offert et utilisé pour le traitement du diabète. Et la metformine a comme objectif de prouver si le médicament est capable de freiner ou neutraliser des maladies dégénératives ou des problèmes cardiaques. L'an dernier, une étude impliquant plus de 180 000 personnes, oui, mesdames et messieurs, 180 000 personnes, a démontré que des diabétiques traités à la metformine vivaient non seulement plus longtemps que les autres diabétiques, mais aussi plus longtemps que l'échantillon de contrôle en parfaite santé. En d'autres mots, ils ont testé sur des gens en parfaite santé, des gens des diabétiques, puis il y avait des meilleurs résultats. Donc, on croit que c'est un bon produit. Donc, il va y avoir d'autres tests qui vont être effectués. Et puis, on va voir peut-être que ça va prolonger la vie. Mais est-ce que le gouvernement va permettre ça? Parce que ça va, même si on vit plus longtemps, est-ce qu'on va vivre en meilleure santé? Parce que sinon, ça va coûter cher à l'État. Les soins de santé, c'est déjà au Québec. 50 sous de vos taxes que vous payez de vos impôts va dans le budget de la santé. Donc, Je pense que les gouvernements vont être prudents avec ça. Alors, c'est tout le temps. C'est tout le temps qui nous reste. Alors, je vous invite à me suivre sur ericlantier.net. Vous allez retrouver mes nouvelles chroniques quotidiennes, le Tour d'horizon, qui sont diffusées sur le 92,7 FM du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05. Ils sont accessibles, c'est gratuit. Et je vous invite aussi à consulter ma page Facebook, qui est juste située à la gauche de cette page-là. Alors, vous allez pouvoir voir tous les articles que je publie. Par exemple, il y a des articles du Journal de Montréal, du Devoir, du 98.5, du Figaro. Alors, chaque matin, je publie les articles les plus pertinents. Alors, au lieu d'aller voir tous ces journaux-là, vous avez juste à cliquer sur ma page Facebook et vous allez avoir les titres et les liens de ces articles. Pour tout commentaire, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net. Et donc, mesdames et messieurs, notre prochain rendez-vous, c'est mardi prochain. Le 8 décembre à 14h30 sur les ondes du 760 AM pour un autre tour de piste. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
Merci d'avoir pris part à ce tour de piste. Le tour de piste existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Le tour de piste est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer à un autre tour de piste. Au revoir!